une grenouille.
Encore une fois, il faut dire encore une fois, Eva, bonne fête de Noël, et entendez le Gloria dans votre cœur pour recevoir cette joie qui vient d'en haut, cette joie qui vient du cœur de Marie, et comprendre que nous en avons tous besoin. Je vous ai dit, il faut que la communauté maintienne cette note de grande joie. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, c'est bien souvent ce que nous devons communiquer et donner. Le monde est triste. Il est très triste, souvent. Parce qu'il n'a pas assez d'amour. Alors il faut que nous puissions, non pas une joie factice, hein, mais que nous puissions communiquer la vraie joie qui n'empêche... Cette vraie joie peut s'accompagner de certaines... souffrance, certaines tristesses, certaines luttes, mais il faut que nous communiquions cette vraie joie qui vient du cœur de Marie. Ça fait partie du témoignage familial de la communauté Saint-Jean. Communiquer d'abord à ceux qui sont le plus proches de nous. Noël est une fête de famille. Vous l'avez senti, j'espère, que votre famille, c'est ici en premier lieu, mais ce qui n'empêche pas que nous avons toujours une famille selon la chair et le sang, pour ceux qui en ont encore, ceux qui ne l'ont plus, et de plus en plus du côté du ciel, alors c'est le Noël céleste, c'est le Noël divin, c'est très bien. Mais pour les autres, c'est forcé que Noël nous met aussi très proches du cœur de nos parents, de nos frères et sœurs, de nos amis. Il faut que nous les portions dans le cœur de la Très Sainte Vierge. Pour que nous puissions de plus en plus faire comprendre cette grâce qui, je crois, est la grâce de la communauté Saint-Jean que la Très Sainte Vierge nous demande. Ça ne veut pas dire qu'on la vit déjà pleinement. Mais cette grâce de famille, celle qui s'est formée à la croix et celle qui assume la Sainte Famille. Les deux familles divines que nous voyons auprès de Jésus. Et il faut que nous puissions vivre de cela, que nous puissions vivre entre nous dans des liens de charité fraternelle de plus en plus vrai. Et le temps des vacances est pour cela peut-être quelque chose de très bon, très fructueux, pour essayer de se connaître plus, se connaître mieux. Et vous savez que souvent, quand on cherche à se connaître, on a beaucoup de peine à se connaître. Il faut souvent faire quelque chose ensemble pour se connaître. Et ça aide à partir de là. Il y a une matière objective qui nous permet de nous connaître quand nous pouvons travailler ensemble, quand nous pouvons nous promener ensemble pour nous détendre et pour arriver à faire que nous puissions nous reposer plus simplement et dans une vérité plus grande. On doit penser à tous ceux qui ne sont pas ici. On a vécu cette fête de Noël, on continuera de la vivre tout à l'heure, parce que, et demain ce sera la Sainte Famille, donc c'est encore Noël qui continue. Et Saint Jean, ce sera encore une fête de famille. Alors pensons à ceux qui font profession, ce sont nos frères, et quand ils s'engagent pour la profession perpétuelle, ils deviennent, je dirais, le noyau central de la communauté Saint-Jean, puisque à partir de ce moment-là, c'est un peu sur eux que repose la communauté Saint-Jean. Progressivement, la communauté Saint-Jean prend son autonomie, elle doit la prendre au point de vue vital, au point de vue profond. Mais on est tous responsables, et eux sont responsables d'une façon plus spéciale, s'étant engagés totalement et s'étant engagés pour toute la vie. Et en même temps, pour nous, c'est l'occasion aussi de nous engager. Parce que si on prend l'habit, l'entrée première, c'est encore très un engagement, c'est déjà un engagement, mais c'est quand on prend l'habit, c'est la douche d'eau chaude ou la douche d'eau froide, ça dépend des codes, hein. Mais c'est quand même un engagement qui est assez fort. C'est difficile après, hein, de déposer le froc. Quand le temps possible, on va le déposer. Tandis qu'une fois qu'on la brise, ça doit coller à notre peau et ça doit être quelque chose qui doit rester. Alors, la profession perpétuelle doit tous nous engager. Et ça, il faut le demander à l'Esprit Saint. Chacun selon ses modalités, mais ça doit déjà nous engager tous. Et la profession simple également, premier pas vers cette profession perpétuelle. Ça ne veut pas dire, encore une fois, juridiquement, quand on fait la profession simple, que nécessairement on doit faire la profession perpétuelle. C'est bien évident, l'Église est sage en faisant des étapes successives et en laissant la liberté jusqu'au bout, parce qu'elle sait très bien que c'est pas commode de poser un acte libre et parfaitement libre qui nous engage pour toute notre vie. Pour le mariage, ça se fait plus vite. Et on sait qu'il y a pas mal de dégâts, mais ça se fait plus vite. Dans la vie religieuse, ça se fait plus lentement, beaucoup plus lentement. Que Jésus est infiniment plus miséricordieux et qu'il veut que notre engagement soit un engagement d'une fidélité totale. Et il faut que ce soit comme ça. On se donne entièrement et jusqu'au bout. Et quand on l'a fait, on ne regrette jamais. On ne peut pas regretter de se donner au Christ totalement. C'est impossible. C'est absolument impossible. Parce qu'on sait à qui on se donne. Alors quand on se donne à Jésus, quand on se donne au tout petit enfant Jésus, et si le petit enfant Jésus était là, au milieu de nous, si la Sainte Vierge nous le passait, dans ce chapitre de bras en bras, je crois qu'on dirait tout de suite, je fais profession perpétuelle entre les mains de l'enfant Jésus. Et ce serait une profession mystique et intérieure, qui serait plus grande que toutes les autres, et l'aspect juridique viendrait ensuite, on dirait ça au paradis, n'est-ce pas ? Une grâce extraordinaire, c'est que, en face du petit enfant Jésus, on a tous fait profession perpétuelle immédiatement et qu'on a avancé d'un cran. Et c'est vrai, je crois qu'il faut faire ça spirituellement. Comment voulez-vous refuser quelque chose à l'enfant Jésus? C'est déjà comme ça un enfant charmant. Ça vous fait perdre du temps quand on n'a pas de temps. C'est extraordinaire. Il vous prend et vous demande, on ne peut pas le... Je refusais, c'est impossible, je refusais. C'est extraordinaire comme un enfant, ça vous accapare, ça vous prend, ça vous saisit. Et alors quand il s'agit d'un enfant Dieu, ça saisit le cœur. Et ça nous saisit le cœur de façon extraordinaire. Et c'est bon d'être saisi par le petit enfant Jésus. C'est bon d'être pris par lui. Et on peut, je crois, mystiquement, je vous donne la permission, n'est-ce pas ? Mystiquement, nous pouvons dire à l'enfant Jésus que nous le remettons toute notre vie entre ses mains et que nous savons qu'en faisant ça, c'est bien, c'est beau, c'est grand. Il nous donnera une petite caresse d'enfant, né d'enfant divin, qui est quelque chose d'extraordinaire. Le poids de la caresse de l'enfant Jésus pour Marie, son regard. Ne pas quitter cela. Et si vous avez l'occasion, il faut relire ces passages de Saint Albert le Grand sur justement le petit enfant Jésus et Marie, tellement beau. Parce que c'est toute sa philosophie de la nature, c'est toute sa philosophie du vivant qui aboutit là. Et toute la philosophie du vivant doit être là. Pour nous, la philosophie du corps prend toute sa situation. signification avec le corps du Christ. Et c'est assez étonnant de voir que le corps de l'homme devient le corps de Dieu. C'est invraisemblable. Ça doit nous faire comprendre qu'il y a là quelque chose quand même d'étonnant, de voir que le Verbe de Dieu veut se manifester plus par le corps que par la parole. Il se manifeste plus par le corps que par sa parole. Il continuera à se manifester par la parole, c'est bien évident, mais il y a quelque chose. Et il se donne plus profondément par le corps. Et c'est pour ça qu'il y a le sacrement de l'Eucharistie. Alors il faut que ce soit la fête de toute la communauté Saint-Jean. Pensons à ceux qui sont déjà dans le ministère, ceux qui nous ont quittés pour des petits ministères per modum transeuntis, hein, des petits ministères par mode de passage. Mais c'est quand même des ministères sérieux, ces ministères par mode de passage. Et alors il faut que nous pensions et que nous les portions. Il ne faut pas oublier ça, parce qu'ils prennent des vacances apostoliques, c'est très bien, ça leur fait beaucoup de bien, mais il faut que nous prions et que nous soyons très proches d'eux. Et puis ceux qui sont malades, notre petit frère Jean-Marie, je dis notre petit frère Jean-Marie, parce qu'il est toujours un petit frère Jean-Marie, n'est-ce pas ? Et qu'avoir sa maladie, il n'y aura plus petit frère. J'ai vu le médecin qu'il a vu à Paris, qui est un ami du reste, c'est un ami du père Thomas, et puis c'est un de mes vieux amis. Il m'a dit que pour lui, c'était pas grave. Il m'a dit, il y a un équilibre de fond chez lui qui est remarquable. J'aimais avoir son avis, parce que ça me rassurait. C'est toujours rassurant d'avoir un médecin. Il dit, il y a un équilibre de fond qui est remarquable. Je l'aime beaucoup. C'est purement occasionnel. Évidemment, il y a le scrupule que nous connaissons bien, notre frère. Mais ça, c'est rien, c'est la sensibilité. Le scrupule, vous savez, c'est le démon s'en sert quelquefois pour nous faire perdre du temps, mais ça peut être aussi une délicatesse merveilleuse de conscience. Le Saint-Esprit peut s'en servir avec le don de crainte et nous donner cette espèce de tremblement de ne pas faire toujours exactement la volonté de Dieu. Et Dieu aime quelquefois mieux cela que, vous savez, ceux qui ont des pas d'hippopotame. J'aime beaucoup l'hippopotame, oui, je sors bien souvent. Au Rwanda, j'ai étudié les mœurs de l'hippopotame. Et j'aime beaucoup l'hippopotame, c'est un animal tellement remarquable. Il ne faut pas être trop près. Hein. Mais c'est extraordinaire. Alors le pas d'hippopotame, vous comprenez, c'est un peu lourd. Hein. Et quelquefois Dieu favorise cela. Alors, priez pour lui, continuez de prier pour lui, parce que c'est sûr qu'il a besoin de notre prière. Mais je crois que ça ne durera pas si longtemps. Il pourra bientôt venir au milieu de nous. Je crois que c'est surtout ça que nous devons, dans une fête de famille, prier pour tous ceux qui ont eu des petites alertes. Il ne faut pas s'inquiéter du reste, hein, parce que ces petites alertes, c'est quand même le Saint-Esprit qui secoue et qui nous purifie. Il faut toujours se dire ça. Toutes les petites alertes de santé ou les grosses alertes de santé, s'il y en a quand même encore eu, hein, cette nuit, hein, les alertes de santé, je crois que c'est l'amour fraternel. Alors, c'est ça. Un frère est secoué, notre frère est secoué. Nous va être trop grand. Ardemment. Alors, c'est très bien. Il faut qu'on prie pour tous ceux qui sont un peu secoués, parce que fraternellement, nous devons toujours les prendre dans notre cœur, encore plus profondément, et comprendre que c'est le Saint-Esprit qui, à sa manière, nous purifie. Et ça nous permet d'être plus miséricordieux. Vous savez, cette parole merveilleuse de l'Épître aux Hébreux, c'est que dans la mesure où on a souffert, on devient compatissant. Quelqu'un qui n'a jamais souffert dans sa vie, quelqu'un qui n'a jamais été labouré dans son cœur a beaucoup de peine de compatir. Même je crois qu'il ne peut pas compatir. Alors il devient dur. Tandis qu'au contraire, celui qui a souffert dans sa sensibilité, dans son corps, qui a souffert dans son cœur a été labouré par certaines souffrances, quelquefois incompréhensibles, c'est toujours une grande grâce. Sur le moment, c'est dur. C'est toujours très dur, parce que c'est l'agonie. Hein. L'agonie, c'est pas drôle. Mais ça donne une vulnérabilité nouvelle, et cette vulnérabilité nouvelle nous permet d'aimer plus. Et surtout, d'avoir vis-à-vis de ceux qui sont proches de nous un regard très miséricordieux, très maternel. C'est le mystère de la compassion. Et ça, c'est bon. Et vous savez, c'est ça qui touche le plus le monde d'aujourd'hui. C'est de sentir que nous sommes forts de la force du Christ, mais que nous sommes fragiles de la fragilité du cœur de Marie. Et que nous avons en nous cette possibilité de porter toutes les brisures de tous ceux que nous rencontrons. Le cœur de Jésus et le cœur de Marie ne sont étrangers à aucune brisure, aucune misère des hommes. Ils ont tout porté. Nous ne portons pas tout, mais nous en portons un certain nombre. Tant mieux. Si Dieu juge que nous sommes capables de porter beaucoup de misère, tant mieux. Mais c'est pour ça que c'est toujours bon. C'est pas drôle, évidemment, on aimerait mieux que tout aille bien, qu'il y ait une joie parfaite, que le frère médecin, le frère infirmier, il fasse tourner les pouces, comme un médecin et comme infirmier, il a travaillé, le travail intellectuel, sa philosophie du corps, il a fait le mieux possible, et pleinement, on aimerait beaucoup mieux ça, et c'est sûr, mais le Seigneur fait que plus la famille s'étend, forcément, une grande famille, c'est comme ça. Quand il n'y en a qu'un, il est malade 3 fois par an, mais multiplier ça par 80, ça fait quand même tous les jours de l'année, n'est-ce pas? Pas tout à fait, mais presque. Alors ça fait quand même quelque chose qui fait que tout le temps, hein, qui est malade, qui est fragile, qui ne va pas tout à fait. Alors il ne faut pas que ça mette une tonalité de tristesse. Il faut que ça maintienne une très grande joie. Si parmi vous, il y a des idées merveilleuses et géniales de votre fête de Noël, n'hésitez pas de le dire, parce que c'est un chapitre de fête, on dit, un chapitre de fête, chacun exprime sa joie. Alors il ne faut pas hésiter de dire notre joie, le Benjamin de la communauté. C'est qui le Benjamin de la communauté? Le Benjamin de la communauté. Il se cache. C'est lui. Ah non, Benjamin. Ça, c'est Berlier qui m'entraîne. Le Benjamin d'âge. Le Benjamin d'âge.
Gérard.
Où est-ce qu'il est, Benjamin? Parce que c'est sa fête aujourd'hui, quand même. Hein? Le Benjamin d'âge. Comment a-t-il passé son âge? Non, mais c'est vrai, il faut trouver. Qu'est-ce qu'il y a?
Il était un peu crevé.
Il était crevé, bien sûr. C'était un peu beaucoup.
La messe était dure.
C'est-à-dire la fin de la messe. Dès le début. Il avait envie de dormir. Vous n'avez pas trouvé que c'était trop long quand même, les officiers? Moi, je vous ai quitté parce que je devais aller prier autre part. J'ai continué de prier, quoi. Mais c'était pas trop long, c'était bon, je crois. Je sens que le téléphone de Currière tout à l'heure pour fêter une bonne fête à toute la communauté, parce que nos cousins et nos cousines, n'est-ce pas, savent très bien qu'on est très liés. Alors ils ont fêté, ils ont dit qu'ils avaient passé toute la nuit en prière. C'est bien. Toute la nuit. Jusqu'à 6h du matin. Je crois qu'à 6h du matin,
ils se couchent.
Ils se couchent un peu. Ils dorment 3h. 3h. Après avoir pris une tisane antimicrobe. Une tisane particulière. Mais autrement, c'est beau. Ils ont passé toute la nuit en prière. Et la journée précédente, c'était le désert. Vous voyez, la diversité des vocations. Parce que pour nous, ce serait peut-être un peu beaucoup. Alors, bon Dieu est plus miséricordieux pour nous. Mais on doit être heureux. Ça, pendant qu'on dormait, ils continuaient de prier pour nous et de nous envelopper de leurs prières. C'est beau. Et c'est vrai, je crois qu'il faut cette communion profonde entre nous. Vous savez qu'ils vont partir mardi pour l'Alverne. La Chartreuse, là-bas. Ça, c'est un courage énorme. Parce qu'on sait que c'est pas commun du tout. Ceux qui le connaissent. Vous ne connaissez pas. Le monde est mort. Vous voyez, tout pas très loin. Vol d'oiseau, c'est pas loin de Cotignac. Il faut 1 heure de Cotignac. Ça fait partie du désir profond de Mgr Barthes. La première fois que j'ai vu Mgr Barthes, quand je lui ai dit qu'il y avait quelques étudiants à Fribourg qui avaient un désir de former une petite communauté, que je lui ai communiqué la règle de vie. La réaction de Mgr Barthes a été assez extraordinaire. Il a lu, et puis il a dit, « Père, si j'étais plus jeune, je vous demanderais d'entrer tout de suite dans votre communauté. » Et puis le lendemain, il me dit, « Père, si Rome n'accepte pas, moi j'accepte. » Je ne savais pas très bien ce qu'il disait. Moi j'accepte. Parce que c'est possible que Rome n'accepte pas, vous n'êtes que 7, pas beaucoup. Mais c'est vrai, quand on regarde les sœurs, elles sont 7. C'est pas gros. Quand on regarde chez les autres, quand on est dedans, on semble toujours plus gros, mais quand on regarde l'extérieur aussi, c'est pas énorme. Évidemment, c'était des numéros plus importants que les sœurs, ça c'est évident. C'était quand même du poids au point de vue poids. Mais Mgr Barthes m'a tout de suite dit, j'espère beaucoup, même si je peux vous aider pour la formation de la communauté, ce serait très bien, à ce moment-là, ça ne s'appelait pas encore la communauté Saint-Jean. Vous direz, c'est là. Terminé. Encore 3 minutes pour vous dire ça. Cinq heures.
C'est bien. C'est
3 minutes.
On est libre.
On est libre. Oh, les bougies sont encore. Je croyais que c'était le temps. C'est le sablier des sœurs carmélites. Je croyais que c'était le sablier qu'on avait mis là. Mais tant que les bougies brûlent, tant que les bougies brûlent, c'est la fin. Parce qu'après, c'est terminé. Alors. Mgr Barthes m'a dit, j'ai un désir, cette côte d'Azur, pas fameux, et elle a été une terre de saints. Il faudrait en refaire une terre de saints. C'est mon désir. Toronnet, la Chartreuse à l'Alverne. Il faudrait que tout ça s'unisse. Et on puisse en faire une terre de saints. Et puis progressivement, alors, il y a eu Cotignac, vous voyez, Toronnet. Puis maintenant, c'est les frères qui reprennent l'Alverne. C'est très curieux. Ça fait un quadrilatère, et puis c'est non, alors qu'il n'est pas dans son diocèse, qui est à côté, mais qui fait qu'il y a comme ça une possibilité d'envoyer des colombes, d'aller de l'un à l'autre. Alors évidemment, il voudrait beaucoup, hein. C'est le grand désir, ça, je ne sais pas comment ça se fera, parce que c'est pas commode, mais que Cotignac soit très lié, et que la communauté Saint-Jean soit très liée à cette petite chartreuse qui reprend. Ils en envoient 4. Je les ai bénis l'autre jour. Moi j'oublie. Il y en a les deux qui viennent de Trolley. Vous les connaissez, Silouane et puis l'autre.
Tour de Dion grec.
Oui, oui. Hein, comment ça se dit?
Théodore.
Théodore. Non, non, pas Théodore. Théodore. Enfin, les deux qui viennent de Trolley, vous le savez bien. Le grand, la, le magnifique.
Ça fait vraiment rêver quand on le voit. Dans les forêts.
Les boulots. C'est le boulot.
Alors, il est comme ça. Il est merveilleux.
Il est merveilleux parce qu'il est
d'une sensibilité divine, merveilleux. C'est un boulot. Alors pour le verre, c'est merveilleux, ça va être un paratonnerre. Et l'autre, au contraire, hein, s'éloigne, se stampe, se garde la route.
Et puis alors à côté de lui, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a deux autres, puisqu'ils sont quatre. C'est eux que j'ai regardé. Vous ne les connaissez pas, je crois, les deux autres. C'est le frère Pierre. Non, c'est pas le frère Pierre.
Celui qui fait profession.
Oui, celui qui fait profession.
C'est Pierre, oui.
Premier nom, frère Pierre. Et puis, un autre. Mais avant, c'est des novices, hein, qui l'envoient là-bas. Je sais bien, quand le prieur est le même novice, c'est, on comprend très bien. Alors, vous priez pour eux. Parce que c'est
une ruine.
Quoi?
C'est une ruine.
C'est une ruine. Une ruine magnifique. Ah, une ruine d'une beauté extraordinaire quand on pense à cette chartreuse du 11e siècle où il n'y a rien, il n'y a plus qu'une, on a refait une seule maison. Et puis alors à côté, vous avez vu les petites chapelles, la voûte d'une beauté extraordinaire qui n'est pas du 11e siècle et qui est plus tard du 14e, mais qui est d'une beauté très 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 belle, c'est étonnant. Alors, il y a une partie qui est refaite, ils peuvent loger dans la partie qui est faite, mais ils vont reconstruire eux-mêmes ces petites cellules. Et les cellules de Chartreuse, c'est pas rien. C'est quand même une petite maison. Alors, ils vont refaire ça progressivement dans un climat qui n'est pas... C'est favorable d'en haut, mais sur la base, c'est pas très favorable. On leur a dit, on leur ferait les pires ennuis.
Parce que c'est comme Toroné. La franc-maçonnerie s'opposait. La franc-maçonnerie voulait faire du Toroné le temple de la pierre. En essayant de vraiment de le prendre. Et les petites sœurs ont eu beaucoup de courage de le prendre. C'était de leur part, c'était doublement courageux parce que ce sont des femmes et que beaucoup ont dit non, le Toroné, ça ne peut être que des hommes. On voit que c'est pas si mal ce qu'elles font. C'est pas comme mal, c'est sûr. Et là, c'est très très courageux, c'est très beau. C'est des chartreux bâtisseurs qui font ça avec beaucoup beaucoup d'amour. Ça doit nous donner du courage, parce que sûrement qu'ils prient beaucoup pour nous. La petite communauté des frères Patrick est très très unie, profondément unie. Et il faut que nous soyons unis avec eux. Demander à la Vierge Marie de les aider, de les soutenir.
Et les frères convers avaient un scapulaire noir, ils nous avaient un scapulaire blanc. Alors on peut toujours dire, on va passer de l'autre côté en prenant un scapulaire noir. Pas tout, sans prendre importance. C'est la vie religieuse qu'on sauve. Et c'est vrai, c'est une chose essentielle. Alors on va changer de scapulaire blanc en scapulaire noir. Ça n'a qu'une espèce d'importance. On a tous fait cette expérience, c'est bon. De comprendre qu'au fond, si on comprend quelque chose, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous prend dans le fond. Et au fond, c'est ça qu'on n'accepte plus aujourd'hui. On n'accepte plus aujourd'hui d'être scaphandrier pendant 6 mois. Excellente expérience. Hein. Et alors, si on ne fait plus l'expérience du scaphandrier, ben, ça ne va plus. Et au fond, oui, on manque cette expérience fondamentale de la vie de l'intelligence qui doit accepter ça, accepter de boire des tasses pendant un certain temps. C'est pas très drôle, c'est évident, c'est pas très drôle. Mais il faut voir la finalité au bout d'un certain temps. Il faut toujours regarder la finalité, vous voyez, mais au-delà. Je dis ça, c'est parce que c'est très important, ça. C'est très important au point de vue vie de l'intelligence, c'est vrai au point de vue vie spirituelle, mais au point de vue vie spirituelle, on l'accepte plus facilement parce que c'est la foi. Au point de vue de l'intelligence, ce n'est pas la foi. Alors c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus éprouvant pour notre conscience humaine. Parce que c'est pas normal. On voit les étudiants de troisième année et quatrième année qui boivent ça. Le crâne, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Puis ils n'ont rien compris du tout, c'est une espèce d'imbécile. J'ai rien compris du tout, alors ils vont comprendre de leur-même. Non, ça continue. Pendant six mois, scaphandrier pendant 6 mois. Alors, de temps en temps, quand on a besoin d'une bouteille d'oxygène, il faut leur demander. Bon, ceci, c'est pour montrer que l'intelligence se développe diversement. Hein, c'est bien ça. Il semble qu'on puisse dire. Certains philosophes sont intelligents, d'autres moins. Dès lors, la philosophie permet d'être plus intelligent, mais non sans discernement et manche nécessaire. Il est évident que celui qui sera logicien toute sa vie sera intelligent du côté logique. J'ai des exemples frappants. Alors, ils seront logiciens tout à l'heure. Pas du tout intelligent comme philosophe. C'est intelligent, alors c'est quelque chose de très particulier. Il y a des historiens qui connaissent parfaitement la période qu'ils enseignent. Bon, ils sont très bons historiens, quoi. Ils connaissent tout ce qui est paru. Ils le disent et ils sont tenus au courant de tout. Absolument. C'est très très bien. Ce sont des érudits. L'érudit est une forme d'intelligence. Bon, il y a une autre forme d'intelligence qui est l'intelligence, si vous voulez, de l'idéaliste. Ce n'est pas la forme de l'intelligence profonde. Pourquoi on choisit la philosophie réaliste avec le jugement d'existence? C'est que là, on est certain que c'est l'intelligence dans son état naturel. Et pas l'intelligence dans des états seconds. L'intelligence dans l'état second, c'est l'intelligence liée à l'imaginaire. L'intelligence liée à l'imaginaire, c'est beau. C'est une intelligence qui plane. Vaut un planeur, je pense toujours, quand je vois un planeur dans le ciel, c'est, je pense toujours au point de vue de l'idéalisme. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Oui, oui, comme quand on est dans le brouillard, il faut faire l'expérience de la féminologie, n'est-ce pas? Et puis alors quand on est dans le planeur, il faut essayer de découvrir, comme ça on a des chaînes qui nous aident à mieux comprendre. Et puis alors la philosophie réaliste, terre, on touche la terre. On touche la terre et puis on la remue et puis on essaie de découvrir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et au fond, c'est ça. Et alors, de la terre, on passe au ciel. Vous voyez, la terre et le ciel, ça se touche. Mais au fond, on est au-delà de... Le planeur est dépendant des vents. Hein? Il se meut selon les vents. C'est le planeur. Et c'est comme ça, la philosophie idéaliste. C'est très, très curieux. C'est une espèce de sens très particulier. Alors, il y a des modalités différentes. Ce que vous allez me dire, il y a la dialectique. Oui, mais la dialectique, elle est comme ça, la dialectique. Ça manque ce réalisme absolu. Bon, voilà les diverses questions. Alors, y a-t-il des questions maintenant par rapport à, c'est, par rapport à ce que je viens de dire ou par rapport à autre chose? Oui.
Pourquoi est-ce qu'en théologie, on a besoin d'une philosophie réaliste?
Parce que la foi est réaliste. Oui, mais la bonté, elle est réaliste.
Oui, mais,
alors le mais. La bonté, c'est la réalité. Dieu, Dieu est bon. Et son être, c'est d'être bon.
Je peux
insister
plus sur le bon que sur le
être. Au point de vue théologique, j'insiste sur les deux en même temps. Je ne fais pas de différenciation. C'est en philosophie. Ce que je vous avais dit, hein. On ne peut pas commencer la philosophie réaliste en disant « Pierre est bon, ceci est bon ». Pourquoi? Parce qu'avant « ceci est bon », il y a « ceci ». Le petit signe très simple, vous n'avez qu'à réfléchir là-dessus. « Ceci est bon ».« Ceci est bon » n'est pas premier, il y a « ceci est bon ». Voilà le petit signe. Bon, est-ce que ce signe est vrai ou pas? Je vais réfléchir. Je vois qu'il y a des réalités qui ne sont pas bonnes. Donc il y a quelque chose de plus fondamental à la distinction bon et mal. Il y a ceci. Or je veux que ma philosophie touche cette fondamentale. Tandis qu'en théologie, je pars de Dieu. Dieu est et il est bon. Et c'est la même chose. Son être, sa bonté. Donc ma théologie implique une théologie qui impliquera une métaphysique et qui assumera aussi bien une éthique. Oui. La théologie est au-dessus de la distinction être et bon. Mais évidemment, je sais très bien qu'une théologie scientifique va développer avant tout le point de vue de l'intelligibilité, et je saurai qu'il y aura une théologie mystique qui va développer avant tout le point de vue de l'amour et de la bonté. Donc je dirais, il y a deux aspects de la théologie qu'il faut toujours maintenir. La théologie qui regarde au point de vue de l'intelligibilité, théologie scientifique, théologie à la manière de saint Thomas, et une théologie qui développe avant tout le point de vue de la bonté et de l'amour, théologie de saint Bonaventure. Allez. Ou une théologie mystique que je peux faire à partir de saint Jean. Mais à l'intérieur de la théologie, il y a les deux aspects. Ce n'est pas deux théologies. C'est une seule théologie, une seule doctrina sacra qui implique le point de vue scientifique de la théologie qui cherche la plus grande intelligibilité et la théologie mystique qui cherche à saisir le plus la bonté de Dieu.
Oui. Et dans une théologie à la Bonaventure, il utilise les notions philosophiques.
Il utilise surtout le néoplatonisme.
Mais...
Parce que, il a, et c'est un petit peu à cause de ça, je crois que dans sa Bonaventure, il ne peut pas y avoir une théologie scientifique, au sens rigoureux. Voyez. Parce que justement, il n'y a pas ce réalisme que nous trouvons dans une théologie scientifique comme saint Thomas. Il faut le réalisme d'une philosophie, d'une métaphysique pour arriver à une théologie scientifique. Voyez. Parce que avant ceci est bon, il y a ceci est. Tandis que, pour saint Bonaventure, c'est un néoplatonisme. Alors, dans le néoplatonisme, le point de vue du réalisme n'est pas absolument vu. Vous voyez ? Alors, c'est pour ça qu'on a une philosophie qui n'est pas absolument réaliste et qui n'est pas scientifique, saint Bonaventure. Mais je peux très bien, et ça il le faut, c'est nécessaire, de montrer qu'une une théologie qui se sert d'une philosophie et d'une métaphysique réaliste demande de s'épanouir en théologie mystique. Je ne peux pas m'arrêter à la théologie scientifique. C'est ça qu'il faut comprendre. Une théologie réaliste. Oui, elle le demande, elle le réclame. Exactement, elle le réclame, ça je suis tout à fait d'accord. Mais quelquefois, le théologien ne voit pas assez. C'est pour saint Bonaventure, c'est ça, et c'est les limites de la théologie de saint Bonaventure. Les limites de la théologie de saint Thomas, c'est qu'il n'a fait qu'une théologie scientifique. Mais saint Thomas est conscient que ce n'est qu'un aspect. C'est les successeurs de saint Thomas qui n'ont plus compris. Oui. Les successeurs de saint Thomas ont considéré la doctrina sacra comme égale à la somme théologique. Alors que pour saint Thomas, sûrement, la doctrina sacra n'est pas égale à la somme théologique. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait dans votre question? Bon, oui.
Entre rationnel, c'est forme substantielle.
Les rationnels. Les rationnels, c'est les formes substantielles.
Oui,
les formes substantielles, on en a parlé. Oui. Au fond, je crois, oui. Je comprenais, c'était la question qu'on m'a posée. L'autre jour, après le cours sur saint Thomas, vous savez, il y a ce petit passage très très curieux. Très très curieux, c'est ça. Où saint Thomas lit fluidité et substance d'une façon extraordinaire. Et là, j'avais dit, n'oubliez pas que saint Thomas parle de ratio substantiel. Vous avez ratio, vous avez les rationnels au niveau des transcendentaux. Vous avez fluidité. Vous avez forme substantielle. Hein, c'est bien ça. Vous avez une substance. C'est pas si compliqué que ça. Hein. Non, bah. C'est un très bon examen, ça va passer les gens. Allez, dites-moi un petit peu la différence entre ratio et forme substantielle et substance. C'est assez rude. J'ai demandé ça à beaucoup de professeurs. C'est chrai. Bon, ratio, c'est très curieux au point de vue historique. Il semble que ratio et rationnel, saint Thomas le tienne d'Avicenne. Pudité, il le tient d'Aristote. Forme substantielle, le cocktail saint Thomas. Et substance, il le tient d'Aristote. C'est très amusant. amusant, ces choses-là. En plus de ça, les courants historiques qui se mêlent là-dedans. Alors, vous me souvenez, le saint Thomas a fait un petit passage très cru entre fluidité et substance, et j'avais dit fluidité ratio substantiae. Alors, moi je crois que ratio, quand il dit ratio substantiae, je dis je crois parce que c'est assez délicat à bien préciser. Saint Thomas cherche le fondement d'intelligibilité de la substance. Quand il dit ratio entis, le fameux terme ratio entis, c'est si difficile, sur lequel il faut tout le temps revenir, hein, pour pas croire qu'on l'a compris, il faut se dire qu'on le cherche. Ratio entis. Donc vous êtes en face de l'intelligibilité fondamentale de l'être. De ce qui est. Vous voyez bien, ratio. Donc, ce qui détermine en dernier lieu mon intelligence. Quand saint Thomas dit primo cadit in intellectus ens, il parle de la ratio. C'est la première chose qui cadit in intellectus. Ça tombe dans l'intelligence, c'est-à-dire ça détermine l'intelligence. Alors, ça, vous avez la ratio. Vous avez les rationes transcendantales. Vous voyez que le mot quidité exprime quelque chose d'assez analogue à un autre niveau. Quidité exprime bien l'intelligibilité essentielle de la réalité. Vous voyez la différence, je dirais la ratio fondamentale, la ratio essentielle. La ratio essentielle de la réalité. Vous cherchez la quidité de la substance. Est-ce que la quidité de la substance est autre chose que la ratio substantielle? Posez-vous la question. Je crois que quidité et ratio sont la même chose. C'est l'intelligibilité fondamentale. On prend quidité, c'est un terme plus précis. Parce que quidité montre ce que l'intelligence saisit en premier lieu. À l'interrogation du qui est-il. Dans l'intelligence interroge qui est-il, l'intelligence saisit la quidité. Elle saisit la quidité de la qualité, elle saisit la quidité de la quantité, elle saisit la quidité de la substance. Et donc, c'est ce qui est saisi en premier lieu. Cette expression que saint Thomas a souvent, per modum quiditatis, il ne dit pas per modum rationis, très significatif. Per modum quiditatis, on saisit une chose per modum quiditatis. Saisir une chose per modum quiditatis, c'est justement permettre de définir cette chose. Alors on la définit. Quand je saisis la quidité, je définis. La ratio, ah, c'est plus profond que la définition, on ne peut pas définir l'être. Mais c'est pour ça que vous n'aimerez pas beaucoup dire quand vous êtes l'être. Et quand vous dites ratio entis. Mais la quidité, quiditas entis, j'ai jamais vu ça dans saint Thomas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tandis que vous pouvez parler de la quidité de la substance. Très curieux. Et vous pouvez parler de la ratio substantielle. Substance fait le joint entre les catégories et l'aspect métaphysique. Oui. Alors vous comprenez comment je peux passer de la quidité à la ratio. Tous les deux expriment le point fort de l'intelligibilité. Mais ratio, c'est la nappe la plus profonde, et quiditas, c'est une nappe moins profonde. Vous voyez ? Pour saisir la ratio, il faut passer par la quidité. Tandis que si je reste au niveau quiditatif, je ne saisis peut-être pas encore la ratio. Je saisis une ratio, un logos, puisque je peux le définir. Mais je ne saisis pas ce qu'il y a de plus profond. Je peux aller au-delà de la quidité. Je ne peux pas aller au-delà de la ratio. Oui. Donc ratio exprime le point de vue de la nappe le plus profond de l'intelligibilité. Ratio est, je ne peux pas aller plus loin. Ratio bonus. Je ne dis pas que quiditas bonus. C'est par des choses comme ça qu'on saisit. On saisit les nuances qui existent entre les deux. Ratio, on parlera de ratio actus. On dira pas quiditas actus. Ça va pas. Donc, ratio, quidité. Bon, forme substantielle. La forme substantielle implique le point de vue du principe qui existe dans la réalité. Le principe qui détermine la réalité. Donc ce n'est plus seulement le point de vue de l'intelligibilité, mais c'est le point de vue de l'être qui est impliqué dedans. La forme détermine. Et détermine la réalité. La forme substantielle, l'âme, détermine le corps. On ne dira pas, on pourrait dire l'âme est fluidité du corps. Mais quand je dis l'âme est fluidité du corps, et quand je dis l'âme est forme du corps, quelle différence est-il entre les deux? Quand Quand je dis l'âme n'est plus l'idée du corps, c'est l'intelligibilité que j'ai du corps par l'âme. Et quand je dis l'âme est forme du corps, je regarde l'âme en tant qu'elle détermine le corps du côté réel. Donc c'est le point de vue de l'intelligibilité, le point de vue du réel. Alors comme l'intelligibilité se fonde dans le réel, on peut dire toujours que la fluidité se fonde dans la forme substantielle. Et on peut dire que la ratio se fonde dans la forme substantielle. Vous voyez la différence entre les deux. Au niveau forme substantielle, je suis au niveau des déterminations dans l'ordre de l'être. Au niveau des fluidité et rationnesse, je suis au niveau de le regard vers l'intelligence. Face à l'intelligence, face au réel, si vous voulez. Là, vous avez les deux aspects. Là, il ne faut pas les couper, mais il faut les distinguer.
C'est bien, ça va ?
Oui ?
Pourquoi est-ce qu'on peut aller au-delà de l'acuité ? Je dis, on peut aller au-delà de
l'acuité. Oui, parce qu'au-delà de l'acuité, vous voyez, un principe, quand je saisis un principe, il est au-delà des catégories. Quand je saisis la substance comme principe, je ne saisis plus la substance au niveau des catégories. Je la saisis comme un absolu dans l'ordre de l'être. Et je la saisis dans un jugement. Mais parce que je la saisis dans un jugement, je peux réfléchir sur l'appréhension qui est contenue dans ce jugement. À ce moment-là, je ne saisis plus l'aspect cuditatif, je ne saisis plus la cuidité, je saisis la ratio. L'intelligibilité saisie à l'intérieur d'un principe. C'est comme ça que je définirai la ratio, si vous voulez. L'intelligibilité saisie à l'intérieur d'un principe. Tandis que la cuidité, c'est l'intelligibilité saisie indépendamment d'un principe. Là, vous auriez la distinction précise entre les deux. La ratio est toujours saisie à partir d'un principe. Et la cuidité, elle peut être saisie indépendamment d'un principe.
Et la conversion formelle, ça se dit le point de vue de l'être et le point de vue de
l'être. Dans Saint Thomas, parle de la conversion formelle dans le traité de l'Eucharistie. Au fond, c'est le lieu, je crois. C'est là où il a inventé ce mot. Ça, c'est vraiment une invention de Saint Thomas. Transsubstantiation n'est pas une invention de Saint Thomas parce que ça existait déjà. Tandis que conversion formelle, c'est pour ça que quand on dit que la transsubstantiation, c'est thomiste, c'est faux de dire des choses comme ça. C'est l'Église, c'est la tradition de l'Église. Le mot de Saint Thomas, c'est conversion formelle. Conversion totale, conversion formelle. La phrase est une conversion totale, si vous voulez, dans l'ordre justement. Alors, conversion formelle, ça veut dire une conversion au niveau des formes substantielles. Alors, c'est du côté réel, c'est pas du côté d'intelligibilité. Donc, disons qu'au niveau des formes substantielles. La forme substantielle du pain est changée dans la forme du corps du pain. Oui. Ici. Parce qu'ici, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin ici. Ici, je... Presque toujours, ça dépend des contextes, presque toujours, pas toujours. Parce que de temps en temps, il dira substance, principe ou cause, et ça nous dit. Donc à ce moment-là, il ne prend pas comme forme substantielle. Vous voyez ? Donc il distingue bien les deux. Il distingue bien les deux. La substance prise comme principe et cause, principium et causa essendi. Quand il dit substance égale principium et causa essendi, il ne dit pas la forme substantielle alors à ce moment-là. Vous voyez ? Mais d'autres fois, il dira la forme substantielle. C'est pour ça que c'est extrêmement complexe de voir. C'est pour ça que je crois qu'on peut distinguer que saint Thomas emploie la substance, c'est ce que je disais, comme résumé. Il emploie la substance au niveau logique, c'est-à-dire réflexif, au niveau métaphysique et au niveau théologique. Alors, quand il l'emploie au niveau substance, principium et causa essendi, au niveau métaphysique. Quand il l'emploie forme substantielle, il l'emploie au fond, déjà dans une attitude réflexive. Mais pas une attitude... Oui.
Cette forme substantielle est quand même complète, non ?
Elle est principe de détermination. Principe de détermination dans l'ordre de l'être, mais c'est le point de vue de la détermination que je regarde, tandis que quand je dis la substance principium et causa essendi, je regarde le point de vue immédiat de l'être. Tandis que quand je dis, je dirais que la forme, l'âme est une forme substantielle. L'âme détermine le corps. Elle est la détermination du corps.
Elle subsiste.
Non. La forme substantielle de l'âme dans le corps ne subsiste pas dans le... Elle ne subsiste pas comme forme. C'est le composé qui subsiste.
Ah oui, mais je veux dire que la forme substantielle peut subsister soit en elle-même, soit en déterminant une matière.
Ah oui, c'est ça.
C'est, ça. Donc elle... c'est elle qui fait que le corps subsiste.
Oui, c'est par elle que le corps subsiste, mais elle ne subsiste pas en elle-même.
En elle-même.
En elle-même. Donc elle subsiste médiatement ou immédiatement. Mais c'est pas... Je ne peux pas dire que toute forme substantielle, du fait même qu'elle est une forme substantielle, subsiste. Ça dépend.
Et, ben, subsiste seule ou alors...
Oui, mais donc... Si je prends subsiste au sens propre, je veux dire qu'elle subsiste en elle-même. Voilà. Parce que ou elle subsiste dans un corps, c'est-à-dire dans une matière, ou elle subsiste en elle-même. Donc je ne peux pas dire que la forme substantielle subsiste par elle-même. Voilà. Elle subsiste en elle-même. Parce qu'il y a deux cas particuliers. Il y a des particuliers. Parce que quand je prends le point de vue de la forme substantielle, je suis au niveau de sa détermination essentielle. Tandis que quand je dis subsiste, je suis au niveau de sa manière d'exister. Donc, il y a deux points de vue différents. Et il n'y a pas une coïncidence absolue. Oui. Il n'y a pas d'autres questions? Oui.
À la fin, le paragraphe de l'article, quand il dit une allusion à la physique, lié à la fin avec plusieurs.
Oui. La comparaison entre la substance et la physis, hein, c'est ça que vous voyez. Et que dans notre monde physique, toute nature est une substance.
Dans la perspective d'Aristote, oui, c'est une substance. Alors, quelle différence y a-t-il entre physis et substance?
C'est que physis, c'est principe immanent du mouvement naturel. Et substance, c'est principe et cause de la manière d'exister, ou la cause d'être, de ce qui est. Donc d'un côté, on est au niveau du devenir, et de l'autre côté, on est au niveau de l'être.
Oui.
C'est un oui, hein.
Il n'a pas d'évident.
Oui.
Il parle des éléments, il parle de la position, et puis que, en fait, que...
Ça fait rien, ça fait rien.
Qu'est-ce
qui fait que ce qui est nu est?
Oui. Enfin non, c'est toute la question finalement de se dire que la physis est substance, mais la substance n'est pas physis.
Oui, c'est ça, c'est la question de ça.
C'est ça.
Exactement. Vous pouvez dire que ce qui est en mouvement existe, vous ne pouvez pas dire que ce qui est en mouvement, c'est l'être. Oui. Donc vous distinguez le devenir et l'être, tout en reconnaissant que le devenir n'existe jamais sans l'être. Tandis que l'être peut exister sans le devenir. Donc la substance peut exister sans la physis, et la physis ne peut pas exister sans la substance. Oui, c'est ça.
Et donc, en fait, le mode de, je sais pas, ce qui est lié à Lucia, c'est le fait que sa qualité, c'est qu'il subsiste par lui-même.
Le propre de Lucia.
Il subsiste par lui-même. C'est la physique subsiste par un autre. Enfin, on peut dire ça? Non.
Je vois ce que vous dites. C'est que la physique n'est pas immédiatement, elle n'a pas immédiatement son autonomie dans l'ordre de l'être. Tandis que la substance a immédiatement son autonomie dans l'ordre de l'être. Oui. Elle n'a pas immédiatement son autonomie. C'est pour ça que c'est si difficile de savoir si, par exemple, qu'est-ce que c'est que vous posez les questions classiques qu'on pose, très bien, votre philosophie de la substance, mais l'eau, est-ce que c'est une substance?
Ah, c'est parce que dit Aristote, c'est un élément. En fait, le principe physis, c'est ce qui fait l'unité de ces différents éléments.
Oui.
C'est ça?
Parce que la physis, l'élément implique la physis, mais l'élément n'implique pas nécessairement la substance. Vous voyez? Alors c'est pour ça que je ne peux pas dire, quand je vois un tas de cailloux, est-ce que c'est une substance?
C'est un élément de la physis. Ce sont des éléments de la physis. Mais est-ce que vraiment il y a substance là? Je n'étudie pas le monde matériel avec la métaphysique. ma métaphysique me sert à une chose,
c'est de saisir le nous et Dieu. Uniquement ça. Tandis que le monde physique, c'est pas la métaphysique qui va me servir à ça. Le monde physique, c'est avant tout la phrosis, la philosophie de la nature, ou la philosophie du vivant. Parce que je suis en face d'éléments beaucoup plus composés, et pour étudier ces éléments beaucoup plus composés, je suis toujours obligé de regarder la matière. Oui. Et c'est en ce sens-là que la philosophie de la nature peut impliquer un développement des sciences contemporaines, tandis que la métaphysique n'en implique pas. Il n'y a pas de science contemporaine au niveau métaphysique. Pourquoi ? Parce que la matière n'est pas un principe.
Est-ce qu'il disait, par exemple, qu'ils imaginaient dans le temps, je suis pris, enfin, ça manque de précision, hein.
Oui. Ils
imaginaient la Terre comme un grand vivant, dont le principe serait la physis, et différents éléments, l'air, le feu...
Oui, tout ça, tous les éléments. On comprend très bien comment il y a une certaine unité dans le monde physique. Quel est le principe d'unité de ce monde physique? Il y a une unité dans le monde physique, vous voyez? Elle a cette unité dans le monde physique. Qu'est-ce que c'est cette unité du monde physique? Pour Aristote, c'est la lumière. C'est la lumière qui est l'unité du monde physique. Et pour Teilhard, c'est la lumière aussi. Donc là, Teilhard et Saint Thomas et Aristote se rencontrent. Ça, c'est rare. Il y a quand même certains points où, de fait, c'est quand même très curieux, c'est toujours très intéressant de voir la rencontre de Teilhard, d'Aristote et de saint Thomas, de considérer que l'unité du monde physique, c'est la lumière. Oui. Vous avez l'unité, là, au niveau physique, c'est pas l'unité substantielle. Oui. Pas d'autonomie dans
la... Je peux regarder ce qui est nul dans la lumière de ce qui est, non?
Qu'est-ce qu'il y a?
Je peux regarder ce qui est nul dans la lumière de ce qui est, non?
Oui, c'est toujours ce que nous faisons,
Il
n'a pas d'autonomie comme la substance.
Oui, mais alors comment existe-t-il?
Il existe de fait que je le vois et puis je ne sais pas. C'est ça qui est critère. Le monde physique, vous savez. Le monde physique, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, c'est très très
difficile.
Mais non, pas du tout. C'est le monde physique. Le monde physique peut avoir une unité de fait comme il a dans la continuité. Oui, il existe dans la continuité. Et il change tout le temps. Il change tout le temps le monde physique. Pas de pareil. Il est tout le temps relatif, il change tout le temps, il se modifie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tandis que si vous dites autonomie, vous mettez un point de non-relativité.
Mais
dans la durée, au moins. C'est ce que j'ai dit, dans la continuité.
Oui, mais il y a
de... Qu'est-ce que c'est?
Mais au moins, à ce moment-là, on en arrive à dire une absurdité, que la matière est substance.
Mais non, c'est vous qui dites ça, parce que vous appliquez au point de vue métaphysique à ça, alors qu'il faut accepter que le monde physique, de fait, au niveau métaphysique, demeure quelque chose... Quoi?
Je ne dis pas ça.
Je dis que je ne peux pas le saisir. C'est autre chose de savoir s'il existe ou pas.
Mais s'il n'est pas nécessaire qu'il existe.
Vous savez, c'est très difficile, l'unité du monde physique. Nécessairement, le monde physique a une unité. Quelle est cette unité? Je ne sais pas.
Ah oui, d'accord. Mais est-ce que je peux dire nécessairement que le monde physique a un principe d'être?
Un principe d'être, non. Parce qu'il il est justement un monde qui n'existe que dans le devenir. Mais oui, mais... Le propre de la substance, c'est d'être un principe qui est au-delà du devenir. Alors vous voulez mettre dans le monde physique un principe qui est au-delà du devenir, alors que le monde physique est essentiel de devenir. Vous voyez? Et c'est là où il y a une contradiction. Et c'est pour ça qu'on est obligé de fait de dire, mais au fond, on ne sait pas. Le monde physique reste quelque chose d'extraordinairement opaque et difficile à saisir. Je peux, à partir des vivants, dire qu'il y a une certaine autonomie. Parce que le vivant implique une certaine autonomie. Mais le monde physique comme tel, il est dans le devenir. Et ça, c'est quand les savants regardent le monde physique en voyant uniquement dans le devenir, je crois qu'ils sont, à ce point de vue-là, c'est très très juste, c'est que, de fait, le monde physique, du côté descriptif,